Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Family Pack, troisième numéro de cette saison 2, Family Pack, le podcast où l'on parle jeux vidéo en famille, simplement, sans se prendre la tête, mais on essaie quand même de dire des choses intelligentes, intelligibles, bref et divertissantes, nous l'espérons. Est avec moi, comme chaque numéro, Madame Maman, Natacha. Bonjour Madame Maman.
Bonjour.
Je vais te mettre le micro dans l'œil, pardon. Et, ou dans le pif, au choix. Ça a fait...
Ah, c'est le nouveau, test Covid, c'est ça?
C'est ça. C'est... tu interviens et je te... Et je te fais un auto-test en même temps. C'est une innovation, Family Pack, bien sûr. Est avec nous également Axel, le fiston. Axel, 11 ans, presque 12.
Comment ça va, les gens?
Voilà, une nouvelle façon de dire bonjour par épisode.
Façon télégraphique cette fois-ci.
Voilà, non mais c'est bien, mais il se renouvelle, c'est oui. Bien.
Pourquoi télégraphique exactement?
Maman, pourquoi télégraphique? Allez, t'as 2 heures.
Bah parce que c'est saccadé quoi, ça me fait penser un peu au télégraphe. Ok. Je suis vieille, c'est ça?
Mais j'ai rien dit, je suis plus vieux que toi en plus. Oui, parce que moi, donc, c'est Bruno. Bienvenue donc à Family Pack. On a beaucoup de choses à vous dire. Alors, on espère que les fêtes se sont bien passées. L'occasion de vous souhaiter à nouveau une bonne année 2022. Hein, meilleurs vœux, meilleure santé, meilleur plein de choses et plein de jeux vidéo, bien sûr. J'espère que vous avez été gâtés. Nous, donc, on a eu, ceux qui suivent l'émission s'en souviennent certainement, on avait demandé un cadeau, on va dire, global. Les grands-parents ont participé, tout le monde a un peu participé. C'est vrai que c'est un cadeau familial, puisque moi, personnellement, c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais un casque VR, mais bon, je me suis dit, c'est un peu chéro, on attendra. Le fait est qu'Axel en voulait un aussi. Je pense que Madame Maman était aussi intéressée. Donc, du coup, sous l'impulsion d'Axel, hein, bien évidemment, donc on a eu un Oculus Quest 2. Maintenant, on doit l'appeler Meta Quest 2, puisque vous savez que Facebook, qui a racheté Oculus, a renommé toutes ses entités Meta. Enfin, toutes ses entités. La maison mère s'appelle Meta, et diverses entités se sont renommées Meta, sauf Facebook, parce que Facebook s'est tellement intégré dans les esprits. Je vois mal le réseau social être renommé Metabook, à mon avis, ça passerait mal. C'est tellement rentré maintenant dans le langage limite commun, courant. Et donc, on a un Oculus Quest 2. C'est vrai qu'on a appris aussi que c'était le casque VR qui cartonnait le plus. C'est vrai que, alors, pour vous resituer un petit peu, et avant qu'on parle un petit peu de notre impression sur le casque, c'est un casque tout en un, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le brancher sur un PC. Tout est dans le casque, en fait. Hein. Vous vissez le casque sur la tête, enfin, ça, avec un système de sangle, vous avez les deux contrôleurs. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, ça marche très très bien. Donc le casque, nous, on l'a plutôt apprécié à la maison pour l'instant. Alors c'est vraiment le début, je ne sais pas ce que vous en pensez.
On parle de The Room tout de suite ou pas? Je me suis fait une petite vacherie sur ce coup-là quand même.
Bah oui, on va peut-être... Alors, ce qu'on va faire, on va déjà parler des jeux qu'on a pris, puisque effectivement nous sommes trois personnes avec ses goûts propres, effectivement, ses attentes particulières. Je pense que déjà, le truc un peu beaucoup, je dirais, qui revient pour tous les trois, c'est comme cet effet waouh. Moi, je sais que j'avais très peu essayé, juste chez Paul à l'époque, l'Oculus Quest 1. Mais c'est vrai que la VR, la réalité virtuelle, donc, on ne l'avait pas non plus trop testé. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je le mets, je suis toujours aussi bluffé. C'est quand même très, très impressionnant, sachant que je porte des lunettes. Hein, et donc, c'est quand même bien adapté. Vraiment, on en prend plein les yeux. C'est assez impressionnant.
Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que pour le coup, pour les gens comme toi qui portent des lunettes, qui ont besoin d'avoir leurs lunettes sur le nez pour voir correctement, il y a un adaptateur en fait, qui permet d'éloigner le casque pour que les lunettes puissent rentrer dedans. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent de pouvoir inclure ça, parce qu'il me semble que je ne sais pas si les autres casques ont pensé à ça, en fait.
Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire.
En tout cas, on ne sait pas s'il y a eu ça, mais ce qui est sûr, truc astuce, comme ça, vous n'avez pas besoin de... d'enlever vos lunettes et puis ne rien voir et pas profiter du plaisir de ce merveilleux casque.
Moi, j'aimerais bien... Moi, je sais que ça a été vraiment... dès que je l'ai posé sur la tête, c'était vraiment waouh. Très, très impressionné. Quelle était votre première impression, en fait, quand vous l'avez posé sur... Moi, je sais que vous avez été impressionné aussi. Est-ce que ça a été à la hauteur de votre attente ou vous avez mis quand même un petit temps avant de vous dire « Ouais, c'est sympa ».
Bah, moi, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça impressionnant. Et au-delà de ça, en fait, via les jeux que je me suis pris, puisque je me suis pris un jeu spécialement pour moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi impressionnant, parce que là, pour le coup, on est totalement immergé dans le jeu. Je m'attendais pas non plus à ce que ce soit un jeu à tendance horrifique en même temps, donc je me suis fait une sacrée vacherie, et c'est vrai que pour le coup, ça fait bien, 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 bien flipper. Quand on a l'ambiance, on se retourne, on ne sait pas s'il va y avoir quelque chose derrière soi et tout, ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup flipper. Après, moi, je me suis pris aussi Beat Saber, et alors là, par contre, c'est juste du bonheur, quoi. C'est du bonheur en barre, ça bouge, c'est dynamique, c'est impressionnant, on voit les blocs arriver. Ah, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très impressionnant. D'autant plus que moi, je l'ai utilisé aussi pour regarder Netflix. Je me suis regardé tout un film sur Netflix via le casque VR. Alors déjà, on est dans un super décor, un super ranch qu'on pourrait jamais avoir dans la vraie vie, avec un grand écran devant soi, et j'avoue que c'est juste magnifique pour regarder un film. On est dedans. Bon, après, c'est pas un film prévu pour, donc forcément, c'est juste comme si tu regardais un grand écran de cinéma. Mais je trouve ça génial. Alors, le problème, c'est que le casque est un peu lourd et qu'au bout d'un moment, c'est vrai que pour des sessions de jeu assez courtes, ça va. Au bout d'un moment, ça fait quand même mal au cou et mal à la tête. Bon, il faut le savoir, c'est pas forcément très ergonomique pour regarder un film, hein. Je l'ai fait une fois, je sais pas si je le referai. Mais voilà, moi, j'ai toujours trouvé ça très très impressionnant et d'autant plus maintenant que j'ai des jeux à jouer dessus. Voilà.
Je fais juste une petite parenthèse en fait parce qu'on va surtout parler de bien sûr du côté jeu vidéo, mais c'est vrai que le côté visionner Netflix ou YouTube par exemple avec le casque, donc il y a des applis dédiées, j'ai été vraiment bluffé par ça parce qu'on a l'impression d'être dans une salle de cinéma, enfin on est vraiment dans une salle de cinéma virtuelle avec un écran géant. Et ce matin un épisode de alors film j'ai pas encore essayé parce que moi le casque je le trouve pas si lourd mais j'ai pas testé sur un film entier voilà mais j'ai testé quelques minutes sur des séries sur des extraits de films aussi etc et du coup c'est vraiment super bluffant on a vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma mais en restant chez soi donc ça moi ça m'a vraiment super bluffé Nat tu nous parleras quand même de ton jeu qui t'a fait peur tout à l'heure je voulais juste préciser que Beat Saber c'est le jeu musical où effectivement on a un sabre dans chaque main et il faut dégommer donc en rythme des pièces qui exigent effectivement de les dégommer de manière horizontale ou verticale, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, faut se déplacer aussi. C'est un jeu qu'on trouve aussi hors VR, hein, mais c'est vrai que c'est un jeu qui prend vraiment, je trouve, toute son ampleur en VR. Et donc, toi, Axel, ça importe, c'est intéressant parce qu'en fait, ce genre de casque, on peut se poser la question pour les enfants, si c'est adapté ou pas. Nous, on s'est vraiment posé la question parce que, en fait, c'est vraiment c'est déconseillé aux moins de 13 ans. Bon, tu vas en avoir 12. Bientôt. Et on s'est vraiment posé la question. Et voilà, avant de dire un peu comment on a fait, toi, qu'est-ce que tu en as pensé la première fois que tu as essayé le casque VR? Et puis, quels jeux on t'a pris exprès, etc. Enfin, bref, quelles ont été tes premières impressions?
Enfin bref, la sensation, elle est géniale à vivre. On a vraiment l'impression d'être. On a l'impression que c'est la vraie vie. C'est comme si on était dans un décor et puis on bouge, on peut. C'est comme si c'était. Si on faisait vraiment les choses, alors qu'en fait, on est dans. Ça se voit qu'on est dans un monde en fait. Mais on a vraiment l'impression que c'est vrai. Donc déjà, c'est super impressionnant. Surtout quand on joue à Super Hot en VR, on a l'impression d'être dans Matrix. Où tu tires sur la tronche des gens pour les buter, les frapper, les tabasser, et puis voilà. Bref, c'est vraiment une super sensation à vivre. Je pense que je ne l'oublierai pas. D'ailleurs, faudrait que j'y rejoue un peu parce que ça fait un peu de temps que je n'y ai pas joué.
Alors Super Hot VR à la base c'était pour que tu l'essayes et d'ailleurs ça t'avait un peu impressionné au début, je m'en rappelle. Ça c'est important de le dire parce que c'est pas forcément adapté à ton âge, mais on s'était dit que comme c'est des formes très géométriques, alors Super Hot c'est un super jeu, voilà, tout simplement, sans faire de mauvais jeu de mots, qui existait avant la VR, enfin avant sa version VR, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de ces jeux qui prennent toute leur dimension VR, puisque dans Super Hot, on a face à soi donc des ennemis mais qui sont vraiment en forme géométrique, donc c'est ni des zombies, ni quelque chose d'ultra réaliste, hein. C'est vraiment des un peu comme des ouais c'est des mannequins en fait à facettes un peu comme ça rouge mais très très géométrique. Super Hot, le concept c'est que tant que vous ne bougez pas l'action est figée et dès que vous commencez à faire un mouvement l'action continue de se dérouler et du coup c'est vrai que c'est super impressionnant d'éviter les balles de lancer des objets d'appréhender chaque ennemi avec ces règles-là et ça c'est vrai qu'Axel ça l'avait un petit peu impressionné et je peux comprendre parce que moi-même ma première partie de Super Hot, waouh, drôlement impressionné aussi. Par contre, il y a un jeu, Axel, qu'on t'avait pris exprès. Et franchement, c'est un jeu qui est très familial, mais il m'a vraiment très impressionné. Alors, je sais qu'en termes de game design et de level design, il n'est pas aussi poussé que le Astro qui est sur PlayStation VR, mais ça, on le fera quand le PlayStation VR 2 sortira. Je pense qu'on fera tout pour se prendre et on l'essaiera à ce moment-là, parce que je pense que les anciens jeux du PSVR seront compatibles. Mais quand même, il y a un jeu de plateforme qui s'appelle Lucky Stales qu'on t'a pris et que j'ai essayé aussi. Et moi, juste en deux mots, j'ai vraiment eu l'impression d'être une sorte de maître du monde qui avait devant moi soit un Pixar où je manipulais tout, avec un gameplay vraiment, avec une maniabilité, je trouve très fluide, presque à la Nintendo, hein, vraiment. Le jeu m'a jamais pris en défaut là-dessus. Ou parfois, on a l'impression d'avoir, selon les phases, des petits jouets devant nous. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper bluffant. Qu'est-ce que t'as pensé de Lucky Stales? Donc, c'est un jeu de plateforme avec un renard.
En tout cas, bah, mon avis sur Lucky Stales, bah, en tout cas, c'est génial. C'est comme si on était dans un monde fantastique, dans un monde merveilleux. Merveilleux, je dis, le sens monde qui n'existe pas, bien évidemment. C'est vraiment génial aussi, on a l'impression que les trucs nous rentrent dedans. On passe à travers les trucs, j'ai l'impression. On sent vraiment, en plus, la caméra du jeu, en plus, c'est votre tête. Du coup, c'est-à-dire que vous bougez votre tête, vous pouvez regarder dans tous les alentours, vous pouvez tout observer par votre tête. Aussi, c'est grave stylé aussi quand on est dans les grottes, et c'est un effet 2D aussi, on peut regarder par l'arrière, tout ça. L'effet 2D des grottes aussi, il est vraiment super bien fait. Et puis aussi, le livre au début, et on a vraiment l'impression que des choses nous rentrent dedans. Bref, c'est une sensation super à vivre, et on a l'impression aussi de rentrer dans des maisons, et puis voilà. C'est génial.
Et voilà, donc les phases 2D, donc c'est les phases que tu appelles 2D, c'est les phases où c'est de profil, et c'est là on a l'impression d'avoir des petits jouets devant soi. Et sinon, les autres niveaux, plus que les niveaux en général, c'est plus un peu à la Mario 64, quoi, comme on a vu avec plein de jeux de plateforme 3D. Mais vraiment, il y a des animations partout, il y a plein de petits trucs rigolos toujours à regarder. Et c'est vraiment très impressionnant. Si vous avez gardé votre âme d'enfant, c'est vraiment... Enfin, moi, j'étais très, très, très bluffé par ça. Avant de repasser peut-être la parole, Nat, sur ton jeu qui fait peur, j'ai essayé, bien évidemment, vous me connaissez en tant que fan de Resident Evil, donc j'ai essayé Resident Evil 4 VR, j'ai pas eu le temps d'aller très loin, mais je peux vous dire que sur moi, ça marche, mais vraiment pleine balle, c'est-à-dire que, bon, je suis un vieux routard du Survival Horror, là, le 4 en plus, qui fait peur, c'est vrai, dans sa version d'origine, mais qui a une peur quand même qui est moins traumatisante, on va dire, que d'autres Resident Evil ou qu'un Silent Hill ou d'autres jeux. Là, mais vraiment, mais rien que le début, les premières scènes que je connais par cœur, je me rappelle lors de ma première session, retirer le casque pour souffler un peu parce que les villageois qui m'agressaient de part et d'autre, que je maîtrise tranquillement dans la version classique, on va dire, là, mais j'étais mais épuisé, enfin vraiment, j'étais trop stressé, quoi. Et alors que je connais le jeu par cœur. Et en même temps, ils ont fait un boulot dessus qui est tellement exceptionnel, vraiment. Rien qu'au tout début, la première maison où il y a ce premier ennemi, si vous avez fait le jeu, pardon, vous connaissez par cœur l'ennemi qui tout saute, etc. Et qu'après, qui essaie de vous attaquer avec l'hache. Le fait déjà, avant de rentrer, de contourner la maison, d'essayer de le voir à travers la fenêtre, tout ça, on est vraiment dedans. On est dedans, c'est très très impressionnant, quoi. Tu marches en live dans la contrée des R4, quoi. Enfin, c'est assez fou. Et je trouve que vraiment, il y a un effet waouh qui n'est pas là juste les premières minutes d'utilisation, mais pour moi, qui sont pérennes, en fait, qui s'inscrivent dans le temps. Et ça m'a vraiment énormément bluffé. Et donc, Nat, il y a son jeu qui fait peur. Alors, c'est pas un jeu d'horreur, hein, c'est pas un jeu de zomblard. Mais j'avoue, pour l'avoir essayé, il y a quand même une petite ambiance pesante. Donc, c'est un jeu avec Sherlock Holmes, je crois, ou Holmes, ou...
Pas du tout.
Alors déjà, j'ai compris le scénario, c'est bien.
T'avais tout compris. Non, en fait, c'est vrai que ça se passe, dans le Londres un peu de Sherlock Holmes. Effectivement, on joue un inspecteur qui enquête sur des disparitions liées à des artefacts, voilà. Et en fait, c'est un peu Sherlock Holmes qui rencontre Cthulhu, mais version énigme puzzle game. En fait, parce que techniquement, il se passe absolument rien. Enfin, du moins, là...
Je précise, t'es en vue à la première personne.
Alors, t'es en vue à la première personne, c'est toi le personnage principal. Et tu es balloté dans différents endroits pour comprendre ce qui est arrivé aux gens qui ont disparu via un artefact magique, qui t'est filé au début du jeu par un artisan qui te dit qu'il va t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, cet artefact te permet de te retrouver dans des endroits différents pour comprendre pourquoi les personnes ont disparu. Donc le premier étant un endroit qui me terrorise moi au plus haut point, à savoir la salle de stockage d'un musée égyptien. Donc avec forcément sarcophages, momies, des grandes statues égyptiennes. J'ai toujours trouvé ça dans les films terrifiants. Et là, on se retrouve dedans avec plein de boîtes à ouvrir, avec différents mécanismes à trouver, des solutions, d'énigmes. Et au final, il se passe rien. Mais l'ambiance de ce jeu, c'est horrible. C'est juste horrible. Moi, j'étais tout le temps à me retourner parce qu'au bout d'un moment, on finit par ouvrir quand même ce fameux sarcophage et à se retrouver devant une momie. J'étais tout le temps à me retourner pour voir si elle avait pas bougé, la bordel, hein, parce que je me suis dit, oula, on sait jamais. Bon, il se trouve qu'au bout d'un moment, elle disparaît. Et nous aussi. Donc, finalement, il s'est rien passé. Et là, je me retrouve dans un lieu qui me fait encore plus peur, pour le coup, qu'une antichambre de musée. Une église. Donc, je vous dis que ça va être très compliqué pour moi. J'en suis qu'au deuxième niveau, hein, quand même. Donc, il va me falloir du courage. Mais c'est hyper impressionnant, en fait. L'ambiance, le sound design, le fait qu'on est dedans, qu'on se retourne, qu'on jette des coups d'œil derrière soi. Moi, au bout d'un moment, je ne sais plus où je suis dans la pièce. Je suis dans le musée. Je me retourne au fil des boîtes que je dois ouvrir ou des énigmes que je dois... des mécanismes que je dois assembler et tout ça. Au bout d'un moment, je ne sais absolument... Je suis plus avec vous. Je suis plus dans la maison. Je suis dans le musée. Et du coup, c'est vrai qu'on perd très vite la notion de l'espace. Et du coup, voilà quoi. Voilà, donc ça c'est un super jeu, mais bon, ça va être très compliqué pour mes petits nerfs. Par contre, toi, c'est vrai que tu m'as fait essayer Resident Evil 4 aussi, du coup, et j'ai pas réussi du tout comme toi, c'était assez marrant. Parce qu'autant toi, ça t'a super impressionné, autant moi, j'y suis allée en mode bourrin, j'ai dégommé tout ce que je trouvais.
Alors oui, ça c'est vraiment assez curieux, parce que sur des survival sur l'écran de télé, t'es, comment dire, moi pour un... Une scène qui va me faire un peu peur, mais sans plus, toi, tu vas te liquifier en 10 bocaux d'un coup. Et là, en VR, c'est l'inverse, en fait, t'es moins impressionné que moi. Alors là, j'ai pas compris. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, après, voilà. C'est comme ça, c'est tout, c'est assez rigolo.
Peut-être que je me dis que foutu pour foutu, autant foncer dans le tas, je vais savoir.
Bah, autant foncer dans le tas, autant que si tu l'aurais fait en VR, je pense que là, t'aurais clairement crié. Et en plus, avant que tu testes RE4 en VR... J'ai cru que t'allais tellement crier que toute la ville allait t'entendre.
C'est quand même assez bien fichu parce que on a deux contrôleurs, donc un par main, qui sont vraiment, vraiment bien exploités. En tout cas, dans les bons jeux, et c'est le cas dans RE4, parce qu'on a vraiment les mains de Léon et tout. On prend les objets, on les manipule. Son gun, on peut le prendre vraiment à la ceinture. Enfin bref, on se prend pour Léon, quoi. C'est vraiment...
La recharge aussi, vraiment comme à manipuler le pistolet en recharge.
Ouais, c'est vraiment c'est super impressionnant. Et du coup, le truc, c'est que chez nous, c'est pas très grand. Ce qui est bien, c'est que, à part Beat Saber mais surtout Super Hot, où là, il y a des mouvements amples à faire, c'est parfois un petit peu compliqué. Pour la plupart des gens, en tout cas ceux qu'on a, le principe de l'Oculus, c'est vraiment super sympa, c'est qu'on délimite une zone déjà autour de nous. Et dès qu'on commence à en sortir, histoire de ne pas se prendre un mur ou dévaler les escaliers, il y a une grille qui apparaît devant vous. Et dès que vous la dépassez, vous retrouvez filmé à travers le casque en noir et blanc, vous retrouvez votre pièce. Donc vous pouvez délimiter votre zone de jeu ou le casque peut en délimiter une. Automatiquement, vous faites un cercle autour de vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très bien fait. Vous risquez pas de vous retrouver à vous cogner, etc. Même si pour certains jeux comme Super Hot, effectivement, là, il faut vraiment pousser les murs, du coup, parce que nous, c'est vrai qu'on n'a pas des pièces très grandes. Donc, j'ai quand même remarqué qu'il y avait beaucoup de jeux qui pouvaient se jouer assis ou en étant juste debout. Aussi, on propose très souvent, c'est le cas des R4 VR, mais c'est le cas de plein de jeux, une maniabilité où vraiment vous avancez avec le stick, ou même physiquement, vous pouvez marcher un peu, avancer, ou... Plutôt, adopter un mode point and click où vous pointez dans le décor et vous téléportez directement sur la zone. Donc voilà, il y a plein de... Vous pouvez vraiment adapter ça aux petits oignons. On est vraiment globalement très très... vraiment super satisfait du casque là-dessus. Maintenant, pour les enfants, c'est vrai que pour Axel, on s'est posé la question parce qu'on sait, on le connaît bien, c'est normal, hein c'est la Suisse, qui fait bien la différence entre le virtuel et la réalité et le réel. Donc on savait très bien qu'il ferait bien la part des choses. Et ce qui est bien avec Axel, c'est qu'il a, il s'est toujours autorégulé, même dans des jeux vidéo classiques, enfin en tout cas sur support classique comme une tablette, un écran de télé, etc. Il sait se réguler, voilà. Il sait se réguler. Et d'ailleurs, quand tu jouais à Lucky Stales, c'est toi-même qui arrêtais au bout d'un moment. Voilà, parce que tu poussais pas trop loin, tu disais, bah non, ça m'a fait beaucoup de sensations, je me suis amusé, mais maintenant, stop.
Bah, en même temps, c'est normal, parce que, un petit conseil, si vous êtes nouveau à la VR, je vous conseille de jouer maximum une heure, parce que si vous commencez à jouer trop longtemps, vous risquez d'avoir mal au ventre, et mal à la tête, donc vous risquez de vomir. Donc, je vous donne un petit conseil, ne jouez pas plus d'une heure, une heure maximum. Et minimum, c'est le temps. Minimum, c'est le temps que vous voulez.
Par contre, c'est un peu le problème de l'Oculus, je trouve, c'est l'autonomie du casque. Je trouve qu'elle n'est pas énorme, énorme. Bon, tu me diras, c'est bien parce que ça permet, ça évite de faire des grosses sessions de jeu et pour le coup, c'est vrai qu'on a très vite mal à la tête. Encore que. Mais c'est vrai que je crois qu'elle a une autonomie, je sais pas, de 2 heures à peu près. Enfin, je sais, quand on y a joué tous, on se tombait très vite à en rate de batterie, donc... Après, ça peut être pas mal, ça évite les longues sessions de jeu.
Je sais pas, après, ça doit dépendre des jeux, ça doit dépendre des utilisations, ça doit dépendre du volume sonore, de plein de choses. Alors, c'est vrai que la batterie n'a pas l'air de durer très longtemps. Pour les sessions de jeu qu'on en fait, c'est vrai que ça nous a jamais mis en défaut. Puis, il se recharge assez vite, je trouve. Ça, par contre, c'est bien la recharge. Alors, je l'ai pas comme ça, je l'ai pas chronométré, mais j'ai l'impression que ça se charge quand même assez vite. A contrario, je trouve que bah, depuis qu'on l'a, on n'a pas encore changé les piles parce que les contrôleurs, c'est des piles. Et les batteries enfin des contrôleurs sont encore au max. Alors, par contre, en termes de piles, pour les contrôleurs, je trouve ça hyper impressionnant. Vraiment, je trouve que ça consomme quasiment rien, alors que c'est quand même une belle techno qu'on a dans les mains. Effectivement, le casque, ouais, je pense que ça doit être 2-3 heures, peut-être. Je pense peut-être plus 3. Après, je vous dis, ça doit dépendre de l'utilisation qu'on en fait. Mais bon, de toute façon, c'est fait pour être joué à la maison, donc on le met au... On le branche et puis voilà quoi. Puis il y a même moyen après pour ceux qui veulent filouter qu'une rallonge ou quoi. On peut jouer avec le casque branché. Après, ça pose pas de soucis. Mais en tout cas, nous, l'expérience qu'on en a eue, c'est qu'on est très impressionnés. Vraiment, on a hâte de découvrir encore plein de jeux dessus. Maintenant, effectivement, comme le disait Axel, moi je sais que là, ma première session de jeu, j'avais un peu mal au bide aussi et j'avais un peu mal à la tête. Et après, c'est passé. Les sessions d'après, ça se passait mieux. Il y a vraiment un temps d'adaptation. Je le déconseille vraiment par contre. Pour des enfants trop jeunes, alors c'est vrai que chaque famille a son histoire, chaque enfant est différent. C'est vrai qu'Axel a bientôt 12 ans et on sait qu'il fait bien la part des choses là-dessus et surtout il s'autorégule. Voilà. C'est sûr que si vous avez un enfant qui a déjà du mal à lâcher la table, faut se battre à chaque fois pour. Faut pousser la gueulante à chaque fois pour qu'il lâche la console ou autre. Bon, ça peut être. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté immersif qui est vraiment très impressionnant avec le casque. Mais bon, écoutez, à voir. Moi, je pense que pour un gamin qui effectivement a fait bien la différence et n'est pas sujet à être addict tout de suite, voilà, des écrans, à plus vouloir les lâcher, je pense qu'à partir d'11-12 ans, on peut commencer à le tenter en faisant vraiment très attention aux jeux auxquels il joue, bien sûr. Pas des jeux avec des zombies, pas des jeux avec des tueries, etc. Tout ça. Donc là, tout à l'heure, Axel parlait de tuer, de tabasser dans Super Hot. Je le répète, Super Hot, c'est vraiment des personnages aux formes géométriques. C'est dans le genre vraiment, je dirais, imaginaire et totalement abstrait. On est vraiment là-dedans, quoi. Voilà. C'est un graphisme très minimaliste, presque rétro, en fait. On a l'impression de revoir les premiers personnages en 3D, mais là, même sans visage. Enfin, il n'y a même pas d'œil, il n'y a même pas de nez. Enfin, c'est des mannequins, quoi, en fait, à facettes, on va dire. Et effectivement, comme je disais, les côtés annexes, la vidéo, moi, ça m'a vraiment impressionné. Donc, bon, globalement, je pense qu'on a trouvé ça super. Moi, j'ai trouvé ça vraiment même extraordinaire. Hein. Je pèse mes mots. Maintenant, j'ai hâte de voir voilà, ce qu'ils vont nous trouver encore dessus. Bon, on est loin d'avoir fait tous les jeux indispensables. Il y en a beaucoup. Là, c'est le début. Et puis, c'est quand même un budget parce qu'il faut acheter les jeux, etc. Mais bon, je pense qu'on valide tous l'Oculus Quest. Moi, par rapport à ce qu'a dit Madame Maman au niveau du poids du casque, ça ne me gêne pas du tout. Peut-être que j'ai une plus grosse tête que toi. Par contre, effectivement, moi, dès que je commence à approcher l'heure, je sens que mes yeux... Bon, moi, j'ai déjà des yeux voilà, qui se fatiguent très vite. Mais je vois qu'au bout d'une heure, que ce soit au niveau de la tête ou des yeux, effectivement, je me dis, bon, là, il faut que j'arrête. Autant sur un jeu vidéo classique, on peut passer 2-3 heures qu'on ne voit pas le temps passer. Autant là, le casque, quand on approche l'heure, déjà, on sent que enfin physiquement c'est quand même même je dirais même au niveau sensoriel c'est épuisant. Voilà, c'est épuisant parce que c'est normal, c'est quand même quelque chose auquel on n'est pas habitué. Je veux dire, enfin bon, la VR, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui est rentré comme la télé dans, voilà, dans, dans les us et coutumes depuis, depuis des décennies et des décennies. Et du coup, c'est vrai que c'est très fort pour les sens, mais au bout d'un moment, bon, pff, c'est épuisant. Voilà. Donc je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le casque VR. Tiens, oui, tiens, ça pourrait être intéressant. Ce serait quoi pour vous la, l'expérience qui existe peut-être déjà? Et j'invite nos chers auditeurs sur le compte Twitter de Family Pack ou sur le compte Instagram, le compte Facebook, etc. de peut-être nous donner des conseils de jeu là-dessus, parce que bon, bah, moi j'essaie de défricher un maximum, mais on découvre au fur et à mesure. Ce serait quoi pour vous votre expérience de jeu VR que vous aimeriez vraiment? Un jeu où vous dites, tiens, ça, j'aimerais vraiment le faire en VR, ou peut-être un concept existant, ou un concept qui n'existe pas, ou qui existe peut-être, mais on ne l'a pas encore rencontré.
Bah moi, pour moi, ce sera Minecraft. Alors, Minecraft, il existe déjà en VR, mais il n'est pas, pas encore dispo. Sur l'Oculus Quest 2, il n'y est pas encore. Je sais que sur certains Oculus Rift, il y est, mais sur l'Oculus Quest, il n'y est pas encore. En tout cas, s'il y est, j'essaierai direct. Et puis, je pense que ça va être intéressant. Hein. Moi, j'attends Minecraft à tester en VR. J'attends déjà aussi sur PC. Car, ben voilà quoi.
Moi, je sais pas, je vois bien un jeu, comme j'aime bien les jeux un peu épiques, tout ça, je vois bien un jeu à la première personne, mais type The Witcher, un truc comme ça. Ou Skyrim, ou... Je pense que ça, dans une immersion totale comme l'Oculus, ça pourrait donner quelque chose de vraiment grandiose.
Mais Skyrim, il me semble qu'il existe en VR, hein. Il faudrait qu'on vérifie, mais il me semble que, alors je sais pas sur quel casque, mais il me semble que Skyrim, ça existe déjà. Et il y a des jeux comme ça, je crois que j'en ai vu passer, où vraiment on est immergé dans des mondes, etc. Moi, ce serait un walking simulator, en fait, avec alors pas trop d'énigmes quand même, enfin si, avec un peu d'énigmes, mais un jeu vraiment contemplatif, on se balade dans des décors merveilleux, sans être oppressé tout le temps par des ennemis. Ça me plairait bien. Et si ça se trouve, ça existe, si vous avez des conseils, hein, n'hésitez pas. Alors, vraiment, que ce soit dans le trip contemplatif, poétique, action, horrifique, pour les ados, pour les enfants, n'hésitez pas donc à nous faire part de, voilà, de vos titres favoris. Donc oui, si vous voulez faire passer un message à Axel, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, on lui transmet, il n'y a pas de souci, on lui lit, et on vous fait part aussi de ses impressions, il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous remercie pour les... J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour les retours qu'on a depuis que Family Pack reprend, donc ça fait vraiment super, mais vraiment super chaud au cœur, on vous salue tous. On salue également particulièrement Mopral et MachinTruc76, qui sont nos deux premiers contributeurs. Vous savez qu'on a ouvert un Utip, effectivement, on vous en parlait brièvement le mois dernier, dans l'épisode précédent. Donc Utip, c'est quoi? C'est si vous voulez faire un petit don pour nous aider, pour supporter donc Family Pack, hein, c'est assez simple. Et bien sûr, c'est sans engagement, vous pouvez retirer votre don quand vous voulez, etc. Donc c'est sur Utip, hein, vous tapez Utip Family Pack et vous allez trouver. De toute façon, c'est en lien dans la description de l'épisode, c'est en lien aussi directement sur la page, le mini-site de Family Pack, hein. Vous tapez Family Pack podcast sur Google et vous allez tomber, le premier résultat qui arrive, c'est notre petit site pour écouter facilement tous les anciens épisodes. Et vous avez un petit macaron, enfin vous avez un petit bouton juste en dessous, soutenir ce podcast. Voilà, si vous voulez nous soutenir, ça nous fera bien plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Family Pack est disponible partout, hein, vraiment Apple Podcast, donc iTunes bien sûr, mais sur Amazon Podcast aussi, sur Spotify, sur Deezer, sur les applis de podcast comme Podcast Addict, etc. Enfin, on est partout, Google Podcast, voilà. Donc n'hésitez pas à partager, bien sûr, tout cela. Bon, mais enfin, on n'a pas joué qu'à la VR quand même. On n'a pas joué qu'à la réalité virtuelle, puisque notre plus gros temps de jeu concerne quand même le jeu vidéo sur console, bien sûr, console traditionnelle. Oui, d'ailleurs, même Axel... Même par rapport au casque, hein, ça n'a pas enlevé le fait que tu préfères comment jouer comme la plupart de ton temps sur tes temps de jeu sur des machines traditionnelles, alors que je vois que notre...
Surtout la PS5.
Surtout la PS5, alors que je vois que notre maître huissier Kirby, notre chat, est en train de pioncer. Donc, ce n'est pas encore sur cette émission qu'on pourra profiter de son expertise si précieuse. T'as, d'ailleurs, en parlant de chat, Axel, il y a un jeu pour te féliciter de tes bonnes notes qu'on t'a acheté là, il y a quelques semaines, et tu y passes du temps. Est-ce que tu voudrais nous en parler ?
Bah, évidemment, vu que c'est quand même... On est quand même sur Family Pack, donc évidemment, on parle des jeux qu'on a joués, évidemment. Bien, alors le jeu auquel j'ai joué et que mes parents m'ont acheté par mes excellentes notes à l'école, sans vouloir me vanter.
Sans vouloir te vanter.
Bon, bref. Eh bien, ce jeu, c'est Collateral Damage remasterisé. Et non pas remasterisé, remasterisé. Voilà. Pour rester dans le thème de chat. Et de toute façon, c'est ça aussi dans le vrai nom du jeu. Alors, bah vous connaissez Collateral Damage. Et bah j'en ai parlé aussi dans plusieurs familles pack. Hein.
Tu peux nous faire un petit redit quand même, parce que je me rappelle plus bien. C'est quoi le principe du jeu déjà ?
Eh bien, Collateral Damage, c'est le concept, c'est un chat qui est dans plusieurs maisons et qui doit tout casser, qui détruit tout parce que ses humains répondent pas, parce que ses maîtres ne répondent pas à son besoin. Du coup, le chat, il commence à s'énerver, il va tout détruire, tout saccager dans la maison.
Et ouais, c'est un chat, quoi.
C'est un chat, voilà. Mais sauf que là, c'est remasterisé, donc il y a plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles photos, on peut griffer les rideaux. Enfin, en gros, ça reprend le même concept de Collateral Damage, sauf que le système n'est pas pareil. Ha ! Alors, pour commencer, le mode objectif, il n'y a plus un temps défini pour dire dans combien de temps, t'as combien de temps pour aller détruire tes objets. Sauf que maintenant, il y a une barre d'énergie qui s'épuise en bougeant, en se déplaçant, en attaquant. La barre d'endurance, exactement comme dit papa. Donc voilà, du coup, si la barre, elle atteint zéro, bah, fin du niveau. Il y a des objectifs à accomplir, on doit essayer de tous les accomplir du niveau, c'est le but. Hein. Donc moi, étant déjà platiné la version PS4, donc j'essaie actuellement de platiner la version PS5. Donc en plus, c'est pas cher, hein, ça doit coûter 12 balles, quelque chose dans le genre. Donc c'est pas cher, c'est très fun. On peut griffer les rideaux maintenant aussi, on peut monter sur des aspirateurs... Et histoire de... On peut chevaucher des aspirateurs. Au niveau des niveaux, il n'y a pas de nouveauté. Au niveau des photos, il y en a plus que le premier, j'ai l'impression. Donc voilà, le système des photos, maintenant, c'est plus facile à obtenir que le premier. Donc, voilà. Les personnages, j'ai l'impression que c'est les mêmes aussi. Ou il y en a peut-être des nouveaux. Non, même si je pense que c'est les mêmes. Mais bref, cette version remasterisée... C'est vraiment plus le système, c'est pas la même sensation que le premier. On sent quand même que c'est qu'il y a quand même une différence. Donc mon avis sur ce jeu magnifique, génial déjà. Aussi, j'en ai pas parlé, vous savez les améliorations, la vitesse, l'endurance, l'attaque. Et ben ça c'est plus fichu pareil parce qu'avant vous démarrez de toujours à zéro à chaque partie, vous devez trouver des améliorations en ouvrant des cadeaux dans le premier. Bah maintenant c'est plus foutu pareil. Les chiens améliorations, maintenant, on peut en obtenir en obtenant des friandises. Les friandises, c'est quoi ? Bah, c'est tout nouveau sur Collateral Damage, si les friandises n'étaient pas présentes sur le premier. Les friandises, c'est ce qui vous permet d'acheter les chiens améliorations, histoire d'augmenter votre chat. Ou aussi d'acheter des photos, qui permet aussi de débloquer de nouveaux personnages. Ce n'était pas pareil que le premier.
Oui, du coup, c'est une monnaie, en fait, les friandises.
Exactement. Ça vous permet d'acheter des chats améliorations. Et puis, sauf que ça ne se réinitialise pas. Voilà. Donc, ça, ce qui est bien. Du coup, si vous avez votre chat au maximum, vous pouvez avoir des pouvoirs spéciaux aussi. Vous pouvez aussi faire des siestes aussi pendant le niveau, histoire de regagner de l'énergie, histoire de tenir quand même le plus longtemps possible. Et puis, maintenant, allez dans la caisse. Et bah c'est plus une obligation, parce que vous pouvez mettre pause et déjà terminer le niveau si vous avez déjà tout accompli. Maman, tu voulais dire quelque chose ?
Non, donc du coup tes améliorations, tu les gardes sur tous les niveaux que tu fais après en fait.
Exactement, ça se réinitialise pas comme le premier.
D'accord.
C'est vraiment pratique aussi, ça vous faut obtenir un petit trophée en or, donc ça c'est pratique pour vous si vous êtes collectionneur de trophées PlayStation. Enfin voilà. Donc conclusion, c'est un excellent jeu. Vraiment une super expérience, j'y retournerai sans doute aujourd'hui.
Juste quelques petites précisions, c'est que c'est un jeu qui est très très coloré, hein, qui a un graphisme très cartoonesque, et c'est en vue à la première personne, on est vraiment dans les yeux du chat en fait, et à gauche et à droite on voit ses pattes. C'est vraiment un jeu super fun, ou vraiment très simple, mais vraiment que je conseille si vous avez Si vous avez envie de vous défouler, vous avez un enfant qui a envie de se défouler, ça peut vraiment. C'est très. Puis c'est vraiment rigolo, quoi. Puis alors là, dans le genre de jeu non violent cartoonesque, ça se pose là. C'est le plaisir vraiment de faire tomber les vases, les DVD, enfin vraiment de tout péter. Et surtout, maintenant, on peut greffer les rideaux. Alors là, effectivement, c'est le pompon. Le truc, c'est que j'ai trouvé, visuellement, il est plus beau. Bon, ça reste vraiment très rudimentaire. Hein. C'est des aplats de couleurs avec des ombres, etc. Je trouve les couleurs plus chatoyantes. Par contre, on a remarqué qu'Axel, que par rapport au premier 4 latéral damage, c'était un petit peu moins fluide. J'ai l'impression qu'on est plus sur du 60 FPS, en fait. Mais bon, c'est pas si gênant que ça.
Non, c'est pas la fluidité. C'est juste le système de coups de patte qui n'est pas pareil. Ça, c'est l'impression que tu as. Mais non, non, c'est toujours très bien fluide. Et puis, puis voilà. Donc, ce n'est pas du tout... La fluidité n'a pas du tout changé. C'est juste que c'est pas la même sensation quand tu donnes des coups de patte, c'est tout.
Bah moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand je te voyais jouer. Bon, après, écoute, hein, ça reste fluide quand même, mais j'ai l'impression que le premier était quand même plus fluide. Mais bon, bah, c'est une impression que j'ai. Alors moi, du coup, je suis sur Dark Souls 3. J'ai bataillé, j'ai vaincu des boss. Hein, vraiment, jamais j'aurais pensé pu battre des boss comme ça un jour. Vraiment, tellement, c'est un jeu qui vous demande... De l'abnégation, c'est un rapport vraiment à la frustration qui est assez incroyable. Mais bon, c'est toujours aussi formidable, même si là, je suis dans une période où là, j'ai deux boss que j'arrive pas à passer. Et là, je suis dans une période, au moment où je vous parle, hein, où j'ai un peu moins de patience qu'avant. Donc là, j'ai mis en stand-by pendant quelques jours. Voilà, parce que là, j'ai enchaîné Bloodborne. Et là, je suis à Dark Souls 3. Je pense que j'ai fait les trois quarts du jeu. Je pense pas être loin de la fin. C'est des gros morceaux auxquels dans lesquels je me suis lancé, alors qu'avant, c'est vrai que j'arrivais même pas à passer la première zone de Bloodborne après XSC, donc j'ai quand même fait un chemin quand même qui est assez, je pense, assez conséquent. Mais là, bon, là, j'arrive à une période où là, j'ai deux boss vraiment qui me sèchent tellement, et là, je suis dans une période où j'ai un peu moins de patience. Voilà. Donc, je pense que je reprendrai dans quelques jours.
Non, puis c'est surtout que t'as moins de temps en plus, parce que là, t'as recommencé une écriture d'un nouveau livre, T'as fait quelques papiers aussi, je crois, il y a pas si longtemps que ça. Donc forcément, comme t'as moins de temps, bah, je me demande si ça joue pas aussi un peu sur ta patience, justement.
Ah bah oui, c'est vrai que ça joue, parce que quand je me suis relancé pour de bon, et quand j'ai décodé, comme je dis, la matrice de Bloodborne, et donc des jeux de From Software, des Soulsborne, comme on dit, c'est vrai qu'à ce moment-là, et quand j'ai attaqué aussi Dark Souls 3, j'étais dans une période où effectivement j'avais toujours... Là, parce que j'écris aussi pour une agence de contenu à côté, j'avais pas un livre en écriture à côté, parce que comme là, le 10 février, donc il y a Génération, sitcom d'animation, qui sort, qui est mon nouveau livre, où vraiment, c'est un sujet, là encore, comme Resident Evil, mon livre précédent, qui me tenait à cœur, parce que là, je vous parle vraiment des sitcoms d'animation. Je pense que dans un cadre familial, ça peut être intéressant aussi de le lire. Donc là je vous parle des Simpsons, de South Park, Futurama, etc. Je reviens sur les créateurs, sur la genèse de toutes ces séries, sur l'histoire même de l'animation à la télévision. Enfin, c'est un livre assez énorme en termes de contenu, vraiment, qui me tenait à cœur, qui m'a demandé beaucoup de boulot. Et là j'attaque mon prochain, puisque je repars sur un troisième livre depuis début janvier. C'est vrai que depuis début janvier, entre effectivement le nouveau livre que je suis en train d'écrire, et toujours les missions en annexe, et plus des papiers effectivement que j'écris, là notamment un magazine qui s'appelle Geek Junior, je ne sais pas si vous le connaissez, qui pour l'instant est que sur abonnement, mais qui a un socle assez joli, hein, conséquent d'abonnés, qui est aussi beaucoup distribué dans les collèges, dans les CDI de collège. Et là, j'ai écrit deux pages sur le numéro qui sera peut-être arrivé quand vous écouterez ce podcast, où je parle effectivement, de par mon expérience avec Axel, qui est autiste Asperger, je parle de ce que le jeu vidéo a apporté de bien à Axel. Et voilà, je fais un papier là-dessus et je suis très fier, parce que c'est un sujet qui me tenait bien évidemment à cœur, vous en doutez. Je suis très fier, très heureux d'avoir pu écrire ce papier-là. Et je remercie d'ailleurs Geek Junior et son rédacteur en chef vraiment de m'avoir donné cette opportunité. Et donc effectivement, tout ce boulot, là, c'est vrai que j'ai la tête sous l'eau, quoi. Et bah, effectivement, pour Dark Souls 3, donc c'est-à-dire que les sessions de jeu là se sont à nouveau énormément réduites. Et il y a Elden Ring qui arrive là en février, et c'est vrai que celui-là je l'attends énormément, et donc j'ai peur peut-être de mettre Dark Souls 3 entre parenthèses pendant quelques mois, ce qui n'est pas si grave, hein, puisque de toute façon je veux le terminer, donc j'y reviendrai. Mais voilà, bon, toujours est-il que moi, bah, RE4 VR, hein, je vous en ai parlé. J'ai joué aussi à d'autres jeux, mais dont je ne peux pas vous parler, puisque ça c'est pour l'écriture de mon prochain livre, puisque je reviens sur du jeu vidéo. Mais là, donc, je ne peux pas vous en parler, parce que j'ai énormément joué à ces jeux-là, mais rejoué à ces jeux-là, mais pour mon prochain livre. Donc là, je ne vais pas vendre la mèche. Enfin, voilà, quoi. Du coup, Nat, bah, de par ses horaires décalés, a peut-être un peu plus de temps de jeu, mais aussi, elle écrit beaucoup le matin pour Geek by Girl. Effectivement, le Geeks, pardon, by Girl. Geeks.
Geeks by Girls.
Geeks by Girls, parce qu'il y en a plusieurs, effectivement. Bah oui, oui, c'est pas faux. Du coup, je me suis peut-être trompé, c'est peut-être Geek by Girls.
Non, c'est Geeks by Girls.
D'accord, Geeks by Girls, excusez-moi. Hein. Vous voyez, c'est... On se fait vieux, là. Je commence à mal prononcer. C'est terrible. Du coup, bah, le matin, elle écrit beaucoup. Elle joue donc à beaucoup de jeux qu'elle chronique. En général, c'est chaque vendredi. Et parmi les derniers jeux que tu as chroniqués, est-ce qu'il y en aurait peut-être certains que tu conseillerais ?
Dans les derniers, bah en fait là je viens de sortir deux papiers, un sur Loop Hero et un sur Shovel Knight Pocket Dungeons. Donc bah vous avez forcément les tests sur Geeks by Girls, donc vous avez tout mon avis complet. Loop Hero, c'est un très très bon jeu dans l'absolu. C'est un, en fait c'est le principe d'une boucle temporelle où en fait le monde est détruit et on le reconstitue au fur et à mesure de boucles. Mais par contre, dès qu'on quitte la boucle pour revenir à son campement de base, tout disparaît. Et on... c'est un cycle infini, en fait, où on refait des niveaux, des niveaux, des niveaux. Et le but, c'est de faire le plus de boucles possible pour arriver à battre des boss et au final, arriver à reconstituer le monde, en fait. Grosso modo, c'est un peu ça le truc. C'est... Il n'y a aucune interaction avec le personnage parce que les combats sont automatiques, le personnage se déplace tout seul. Par contre, on peut crafter les performances de son personnage et placer sur les différentes ténèbres de la carte, puisqu'au départ c'est juste un chemin en boucle en fait, généré aléatoirement, on voit le personnage se déplacer sur cette boucle, c'est vu de haut, et en fait sur tout le reste de la carte on peut placer des éléments comme des rochers, des forêts, des marais, des ruines, des villages, des champs, enfin un peu tout. Et ça permet de récupérer des ressources qui, après, de retour au camp de base, vont permettre de faire des bâtiments, des archives, des bibliothèques, des fermes, pour nourrir un peu tout le monde, voilà. Parce qu'on n'est pas le seul survivant. On est le seul qui se rappelle avoir à peu près une mission, mais on n'est pas le seul survivant. Et donc c'est un jeu qui a un tutoriel assez succinct, et qui vous explique pas tout. Et faut vraiment se plonger dedans, faut vraiment avoir la patience. Je vous avoue qu'il m'est un peu tombé des mains celui-là, parce que bah, je pense pas avoir la patience de pouvoir le finir. Alors que pour ceux qui aiment ce genre de jeu, hein, attention, il est excellent, il est vraiment excellent. Moi j'ai plus kiffé Shovel Knight Pocket Dungeon. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le puzzle game, un peu typé Tetris Puyo Puyo, mais avec une petite part de stratégie en plus. J'avoue que celui-là, il m'a beaucoup hypé. J'ai débloqué pas mal de personnages, j'ai fait pas mal de fois, parce qu'en fait c'est le mode aventure, en fait c'est un run complet en une demi-heure quasiment, enfin une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près, mais faut aller jusqu'à la fin de l'histoire, sinon on reprend au début. À chaque fois on reprend depuis le premier stage, donc ça gonfle très vite, et à chaque fois qu'on meurt on reprend au premier stage aussi. Donc le but c'est de faire le run en une seule fois, donc je l'ai fait avec pas mal de personnages, j'ai débloqué pas mal de choses, et c'est vrai que celui-là je vous le conseille, parce que si vous aimez un peu tout ce qui est puzzle game et réflexion stratégie, franchement c'est cool. C'est cool, c'est cool, voilà. Et en plus j'ai fait des let's play. Avec Bruno sur Shovel Knight, qui m'a aidé à tester le mode versus. Donc si vous voulez rigoler un peu, vous pouvez aller voir ces let's play, que ce soit celui de Loop Hero, celui de Shovel Knight. Pour ça, je vous renvoie à mon Twitter, vous avez les liens des tests, ainsi que bah, dans le test, la vidéo que j'ai fait en parallèle. Alors bien sûr, il y a une chaîne YouTube Geeks by Girls, si vous voulez juste voir la vidéo, vous avez la chaîne YouTube Geeks by Girls. Sur YouTube, vous tapez Geeks by Girls et vous trouverez très bien. Voilà.
Shovel Knight Pocket Dungeon, c'est vrai que j'ai trouvé ça très sympa. C'est un spin-off hein, du jeu de plateforme Shovel Knight. Même si j'ai trouvé que la lisibilité était un peu, voilà, c'était un peu compliqué. Moi, je trouve que ça devient un peu brouillon au bout d'un moment, même si je reconnais que le système tue. Et c'est vrai que Nat, bah, sur un de ses lives, m'a invité. On a fait du versus un petit peu ensemble et c'était ma foi fort sympathique. Mais est-ce que ce serait pas l'heure? Maintenant,
le jeu
que le monde nous envie, vous le savez, devine le slogan ou rentre chez maman, ce jeu absolument incroyable où l'on doit deviner, après un slogan complètement inventé, qu'un de nous trois nous donne, on doit deviner de quel jeu, de quelle saga, de quelle console éventuellement il s'agit. Et donc pour le premier numéro de la saison 2, c'était moi qui m'y étais collé. L'épisode précédent là, c'était Madame Maman. Et donc dans cet épisode précédent, c'est Axel qui avait gagné le jeu, donc c'était à lui de rédiger des questions. Alors Axel, tombe bien ta feuille, assis-toi, je pense, mets ton dos côté accoudoir, qu'on voit pas la feuille, voilà. Et donc du coup, tu vas nous donner, c'est Axel qui a écrit des questions, voilà. Et donc on doit deviner, qui a écrit des slogans, pardon, c'est pas des questions, c'est des slogans. Voilà, donc devine le slogan ou rentre chez maman, troisième édition, Axel, tu peux commencer à nous dire ces questions.
Numéro 1. Le grand et cher garçon de l'époque.
Ouais, ça commence bien, c'est quoi ce truc?
Le grand et cher garçon de l'époque. Alors, tu peux répondre par oui ou par non si on te pose des questions, mais juste par oui ou par non, pour pas que ce soit trop facile. Est-ce que c'est un jeu?
Non, non, recherché.
Une saga?
Non, vous l'avez toujours pas.
Une console?
Oui.
La Game Boy?
Non, pas du tout.
Le grand et cher garçon de l'époque.
Oh, Game Boy Advance?
Non, recherché.
Game Boy Advance SP?
Non, vous l'avez toujours pas. C'est pas une console portable.
Ah, la PS3.
Bravo! GG, papa!
Ah oui, parce que la PS3, elle est restée celle pour son prix astronomique.
Et pourquoi cher garçon de l'époque?
Pourquoi garçon?
Parce que j'ai envie, c'est tout.
Parce qu'il a envie, et c'est un bon argument. Donc un point pour papa,
Kirby intervient là, non c'est pas possible là, maître huissier c'est pas bon là.
Kirby elle dort et c'est déjà beaucoup.
Ok, numéro 2. Partout où elle va, elle fout le bordel.
Alors c'est un jeu?
Oui.
Bayonetta.
N'importe quoi.
Partout elle va, elle fout le bordel. Est-ce que c'est un jeu rétro? Est-ce que c'est un jeu rétro?
Alors il date, mais non, pas du tout rétro.
Partout où elle va, hein. On est bien d'accord.
Goat Simulator.
Exactement.
2 points, pop. Donc 2-0 pour moi, cher maman. Ah, attends, déjà, on va recueillir les impressions de Madame Maman, qui a le Somme, mais version intergalactique. Comment ça va, Maman Somme?
Non, mais là, le jeu est truqué, c'est pas possible, c'est des questions faites pour son père, c'est pas possible autrement.
Goat Simulator, tu connais autant que moi, tu l'as vu jouer autant que moi.
Oui, mais j'ouvrais la bouche pour le dire, t'étais plus rapide, c'est tout.
Ah, bon bah ça... Ça, c'est une question de... Voilà, de réflexe.
Bon, le numéro 3, il est facile, hein. Si vous suivez, il est facile. Bon, ok. Numéro 3, j'imite de façon crétine et les ennuis arrivent.
J'imite de façon crétine et les ennuis arrivent.
Des lapins crétins?
Exactement.
Bravo, maman. Donc, ça fait 2-1.
2-1.
2-1. Bon, bah, on t'a trouvé du premier coup.
Ok, numéro 4. Est-ce que vous allez galérer à trouver? C'est la question qu'on se pose. Numéro 4. Je suis un labyrinthe et boum.
Je suis un labyrinthe et boum. Alors, est-ce que c'est une console?
Nope.
Non, ça c'est un jeu, non?
Oui, exactement.
Rétro?
Oui.
Quand je dis rétro, c'est genre 16 bits, quoi. Ou alors PS2, 360... C'est pas un jeu PS4, PS5 ou Xbox Series ou...
Ah. Oui, il date quand même, hein. Donc je suis tenté de dire oui.
Pac-Man?
Non, vous l'avez toujours pas.
Attends, tu peux me répéter la question?
Ok. Je suis un labyrinthe et boum!
Ah, j'ai une idée. Megaman.
Nope.
Ah, ça aurait pu.
Pourquoi un labyrinthe, Megaman?
Non, il pas Bomberman, dans... Bomberman, pardon.
Exactement!
Bravo! Oui, est-ce que Megaman, je voyais pas le... Il n'y a pas de labyrinthe dans mes... Bon, après, on peut estimer que certains niveaux sont labyrinthiques, mais enfin, et encore. Donc, ça fait 2-2, là?
Ouais.
Eh là, faut que je fasse gaffe, là. Je vais commencer à me faire distancer, moi.
Numéro 5, je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez galérer. On frôle la mort à chaque endroit où on va.
Jeu récent. C'est un jeu récent ?
Récent... Non. Non. Non, non, pas du tout.
Ah, Spelunky ?
Non.
Super Meat Boy ?
Non.
Pac-Man ?
Non.
On frôle la mort ? On frôle la mort, t'as dit ?
Oui.
À chaque endroit où on va, c'est ça ? Vous pouvez jouer chez vous, hein. N'hésitez pas.
Alors, indice.
Monster Boy.
Non, alors je donne un indice. Ça date d'il y a 14 ans.
Et c'est un jeu auquel t'as joué, toi aussi ?
Il y a une version où tu m'as... Il y a une version, tu sais, où tu m'as fait jouer un tout petit peu. Et puis, ce qui est sûr, c'est que déjà, tu kiffes grave ce jeu.
Nier Automata.
Ça aurait pu, mais non.
Non, c'était pas un jeu où tu lui laissais faire juste des missions quand il y avait... Yakuza ?
Non.
Uncharted ?
Exactement !
Yay ! Mais quel rapport avec... à chaque fois, c'était quoi la question ? La mort est...
On frôle la mort à chaque endroit. Oui.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a Nathan Drake qui s'accroche toujours partout... chaque fois, et voilà. C'est... Oui, non, mais il a... c'est pas bête. C'est... Bravo, bravo. Bon, donc là, 3-2 pour moi.
Voilà.
Voilà, on peut s'arrêter là, je pense, c'est bien.
Non, non.
Je rigole.
Très bien. Alors, numéro 6. Alors, numéro 6, il est facile. Hein. Ok. Le hit de Nintendo qui a marqué son histoire en 2004.
Mais moi, les dates, je les connais pas.
En 2004, qui a marqué son histoire en 2004. En 2004, on était en...
En 2004, on venait d'être ensemble, attends, tu me rappelles.
Ah, c'est la Wii en 2004, donc c'est...
Mais non,
Non, c'est la GameCube en 2004.
Ah bah si, oui, c'est vrai.
Si.
Oui, c'est vrai.
Je me rappelle pas de grand-chose, mais ça, 2001, quand même...
C'est 2001, GameCube.
Oui, mais c'était la période de la GameCube.
Oui, c'était la période de la GameCube 2004, à peu près.
Super Mario Galaxy.
Bah non, c'est sur Wii, Super Mario Galaxy.
Ah, je pouvais pas avoir bon jusqu'au bout, hein, c'était pas possible. Hein.
Super Smash Bros ?
Non.
Est-ce que c'est un jeu de Nintendo ?
C'est pas un jeu.
Alors, tu peux répéter la question ?
Le hit de Nintendo qui a marqué son histoire en 2004.
Parce que quand on dit un hit, en général, ça parle plus d'un jeu. Donc je pense que tu parles d'une console portable. La DS ?
Exactement.
Et 4-2 pour papa.
Oui, mais évidemment, il met des dates dans le jeu. Alors forcément, moi, les dates, voilà.
Oh, faut pas s'en prendre à moi.
Selon où on se trouve, ça change tout.
Ouais, non, mais c'est vrai, merde. Ah.
Ouais, bah c'est ça, ça s'en prendre à moi, c'est moi qui ai créé la question, ok.
Bon, allez, vas-y, enchaîne.
Ok. Numéro 8. Facile aussi, je pense. Ok.
Sophie, il y a des dates.
Arrête de rager!
Qu'est-ce qui a été vendu à 3 500 000 exemplaires lors de la première semaine de lancement?
Ok. Ok. Alors, on exprime son art au cubisme.
Minecraft.
Ah bah voilà!
Très belle question, très belle réponse. Brillamment dite, hein, j'ai envie de dire. Donc là, on est à 4-4, 3-3? On a
non,
combien?
Non, 3-4.
C'est moi qui ai 4.
Oui.
Donc c'est bien. 3-4? Donc il n'y a plus que 3 questions alors. Alors n'hésitez pas, je répète, à jouer chez vous, bien évidemment. Envoyez votre réponse Avenue Cognac G, CEDEX 512 1212. Bon, allez, on continue.
Ok, bien. Numéro 9, vous pouvez trouver aussi. Les fans de viande ragent en y jouant.
Super Meat Boy.
Effectivement, c'était bien Super Meat Boy, mais bon, vu que vous l'avez dit en même temps, je vais faire plouf plouf histoire de vous départager parce que vous l'avez dit en même temps.
Non, ça fait un point chacun, c'est tout.
On peut dire que ça fait un point chacun, remarque.
Bah,
c'est plouf plouf, c'est pas très juste.
Ça fait 5-4 quoi, ça change rien en fait.
Ou alors je fais tourner maman au hasard et celui auquel je tombe, il aura.
J'ai compris, je fais tourner maman au hasard. Je fais pauvre maman, on va faire tourner, elle va juste dégobiller sur ses savates, c'est tout ce que ça va faire.
Non, allez, comment.
Non, en fait, il a envie de faire plouf plouf, donc tu pourras faire plouf plouf dans ta chambre tout à l'heure si tu veux, y a pas de souci. Allô, tu fais quoi, Axel ? Je fais plouf plouf, me dérange pas pendant que je fais plouf plouf, s'il te plaît.
On va dire que c'est match nul, voilà. Et okay. Ça fait 5-4.
Ok, match nul.
5-4 pour moi. Et donc Kirby, n'hésite pas à intervenir s'il y a un problème. Elle est en boule sur son coussin, donc je pense que tout va bien.
10, vous connaissez aussi. Alors, petit rectangle fun dans les années 90.
Petit rectangle. Tetris ?
Non, c'est pas ça.
Petit rectangle fun.
Rectangle, pas un carré. Rectangle.
C'est important que ce soit un rectangle ?
Bah, c'est un rectangle.
Est-ce que c'est dans les années 90, d'accord.
Est-ce que c'est une console ?
Une console en forme de rectangle ? La Super Nintendo ?
Non.
La Game Boy.
Exactement !
Oui, oui, on peut dire qu'elle est en forme de rectangle, bon, oui. 5-5. Ah, c'était la dernière ? Alors là, est-ce que tu peux en improviser une bonus pour nous départager ? Un carré fun des années 80. On te laisse réfléchir, on te laisse réfléchir. Ouais, ça a été serré, là, hein ?
Ah, on l'a mais... ramène moins, hein ?
Elles étaient très bien, tes questions, Axel, bravo.
Oui, bravo. Doum,
doum, doum, doum, doum. Ah, cette question va gonfler, maman.
Oh non, pas de chiffres, pas de date. Oh
si.
Non.
Si. La super créativité de Nintendo apparue en 2015.
Super Mario Maker.
Exactement.
Eh ben, elle était plus rapide que moi, maman. Eh ben, écoute. Bravo, maman. La bonne nouvelle, c'est que tu dois écrire 10 questions pour le mois prochain.
Non, faut écrire un nombre... Vous voulez pas l'intégrer, ça. Faut écrire un nombre impair, sinon on n'arrivera jamais à se départager.
Oui, donc 9 questions.
Voilà.
9 questions à écrire, donc pour le mois prochain. Bravo, madame maman.
C'est
donc...
pas les questions, c'est des slogans. Oh
oui, des slogans, pardon. Oh là là, c'est moi qui ai inventé le jeu et... Et voilà, on me hue, on me hue. Mais ça fait mal au crâne au bout d'un moment quand même. Bon, et eh ben bravo madame maman, bravo Axel pour ces slogans super chouettos. Donc voilà, la boîte de jeu n'existe pas encore, mais qui sait un jour hein, si un investisseur est intéressé par ce jeu aussi improbable que qu'improbable aussi.
Je vois bien les éditions Méga Bleu pour faire une version physique.
Méga Bleu. Ou Ravensburger, peut-être. Ouais, c'est... Bon, bah, en tout cas, on a bien rigolé. Donc, voilà, comme je le disais, hein, n'hésitez pas également à faire ça chez vous. Pourquoi pas un dimanche pluvieux, ça peut faire passer le temps. En tout cas, c'est peut-être sur ce jeu qu'on va se quitter. Comme d'habitude, hein, je le répète, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux un petit peu partout, hein, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Vous tapez Family Pack Podcast, vous allez nous trouver très, très, très facilement. Dans un processus, je dirais, dans une démarche un peu plus personnelle, je dirais intimiste, on peut nous retrouver aussi, nous, à travers notre personne, sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est chez Bruno, c'est HEZ, _, le trait du bas, comme on l'appelle, le trait du 8, voilà, chez Bruno, donc sur Twitter, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Je suis sur Instagram également. Toi, madame maman, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Bah, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Mon pseudo, c'est Cinealtas, mais par contre, pour me retrouver, c'est Natacha Roca à chaque
aussi.
Fois. Donc,
attention, t'aurais pas oublié Snapchat aussi, même si t'es pas du tout actif.
On est pas sur Snapchat. Ah, t'as un compte Snapchat ? Ah bah, première nouvelle !
Oui, j'en ai un. Oui, parce que mes anciens collègues ne juraient que par Snapchat, donc j'ai un compte Snapchat aussi.
D'accord, ok.
J'y vais jamais, cela dit, hein, mais bon.
Un compte TikTok, peut-être, non ?
Non plus. Non, TikTok, non. Je les mange en général.
J'aimais bien ce Coca.
Oui, c'était bon.
Je pense que ce sera le dossier de la prochaine émission.
TikTok, ils étaient un petit peu bons.
Bon, on vous remercie de nous avoir encore écouté cette fois-ci. Je vous remercie aussi également des résultats du précédent numéro parce qu'on s'est retrouvé pendant quelques temps numéro 1 sur PodCloud et ça fait bien plaisir. Portez-vous bien, jouez bien, n'hésitez pas donc à nous faire part de vos retours et puis on se retrouve de toute façon le mois prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.
Bye bye.
Sayonara les gens.